le bon, le culte et le navrant.
Survivre à une guerre peut devenir la guerre.
T'as pas une gueule de porte-bonheur.
Je t'aime.
Je sais.
On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul.
Il nous faudrait un plus gros bateau, non?
Un tout petit cuisinier.
Appelez-moi Plisken.
J'ai gagné.
Nom de Dieu.
Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Copiculte.
Je m'appelle Julius, je suis ton frère jumeau.
Salut Carlito.
Salut Tom.
Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode 10 des méchants dans l'avion. Vous êtes dans la partie copiculte et après avoir parlé de Passager 57 et des ailes de l'enfer dans notre première partie, nous allons aborder des films qui ont tenté d'apporter quelque chose au genre des méchants dans l'avion, et nous allons parler de deux films en particulier. Le premier s'intitule 7500.
Code 7500, un avion en détresse.
Que vous pouvez trouver sur Amazon. Et le second film s'intitule Blood Red Sky.
Que vous pouvez trouver sur le concurrent.
Le concurrent Netflix. Alors, ce sont deux films très récents. Et alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous avez aussi la troisième partie, Ça se disculte, que vous trouvez sur toutes les plateformes, toujours sur le même thème mais avec d'autres films. Et puis, la quatrième partie, Ridiculte, que vous trouvez aussi sur toutes les autres plateformes, sur toutes les plateformes, pardon. Et en écoutant les quatre parties, vous avez un épisode complet, mais vous n'êtes pas obligé.
Qui fait 18 heures.
Exactement. Mais quand on aime, on ne compte pas.
Non. Voilà.
Alors, premier film que nous abordons dans cette partie, 7500, c'est un film de 2019, réalisé et écrit par Patrick Volras, dont c'est le premier long, puisqu'il a juste fait un court-métrage qui a quand même été nommé aux Oscars, qui s'appelait « Tout ira bien ». Voilà. C'est une production, une coproduction allemande, autrichienne et américaine. Alors, le film est très récent, puisqu'il a été, déposé sur Amazon Prime en décembre 2019 en Allemagne et en octobre 2022 chez nous en France, donc voilà, sorti l'année dernière. 5 millions de dollars de budget pour ce film, et on ne pourra pas vous parler des recettes, puisque, comme c'est sur Amazon, nous ne les connaissons pas.
Non, mais déjà, effectivement, c'est un investissement relativement limité, et on comprend vite pourquoi, quand on voit ce qu'est le film, mais on va vous raconter par la suite.
Exactement. Alors, on retrouve qui au casting de ce film? Principalement Joseph Gordon-Levitt, qui est un acteur qu'on connaît, puisqu'il a joué dans pas mal de choses, 500 jours ensemble, Inception, The Dark Knight Rises, puisqu'il joue le jeune policier qui Bruce Wayne. Cet épisode. Il a joué dans Looper avec Bruce Willis, de Ryan Johnson, qui est un film très intéressant sur le voyage dans le temps.
Il a fait Et au milieu coule une rivière.
Il était plus jeune, effectivement.
Il a fait Halloween 20 ans après.
Pas mal.
10 bonnes raisons de te larguer, belle ref aussi.
City aussi.
Exactement.
Sin City.
Il a fait Snowden aussi.
Ah oui, tout à fait.
Absolument.
Oui, c'est vrai.
Il avait le rôle titre.
Bon film dans ce... Il a réalisé un film qui s'appelle Dungeon, et on le trouvera bientôt dans apparemment la suite.
Ah, la suite.
Ça va arriver du Flic de Beverly Hills. Il va y avoir une suite dans quelques temps. Voilà, donc on retrouve qui d'autre au casting?
Des gens qui sont surtout qui ont la particularité d'être des acteurs allemands qui ont tourné dans des films allemands, diffusés en Allemagne, regardés par des Allemands. Voilà. Et donc, on ne sait pas qui c'est.
Et on ne les connaît pas bien. Et on retrouve aussi Omid Memar, qui joue le plus jeune des terroristes, je pense. Voilà, mais qui n'est pas très connu, puisque je note qu'il a joué dans le Club des Cinq.
Je l'avais noté aussi.
Voilà, et il devait être encore plus jeune, d'ailleurs.
Alors, exactement.
Cher Carlito, le pitch de ce film.
Alors, ce devait être un vol sans histoire, et c'est tout le contraire qui va se passer quand deux terroristes islamistes s'emparent de l'appareil et tentent de rentrer dans le cockpit. Dès lors va s'engager une lutte et une sorte de duel psychologique entre le pilote et le terroriste survivant, le premier cherchant par-dessus tout à sauver sa vie et celle de ses passagers. À la différence des autres films de cet épisode, nous ne sommes pas ici dans un film d'action. C'est plutôt un huis clos saisissant de réalisme en temps réel que nous offre le réalisateur Patrick Volras.
Exactement, ça se passe dans une temporalité très très courte, puisque le film dure 93 minutes déjà, mais en plus l'action elle-même est très courte, hein, c'est à peine le temps du vol.
Tu sais pourquoi ? Effectivement, c'est le temps du vol.
Voilà.
C'est le temps, alors je sais plus en quel, entre quel...
Je crois qu'ils vont à Paris.
Non. Oui, ils vont à Paris, je crois que c'est Berlin-Paris, oui. J'avais vérifié, et c'est le temps... Exact.
Le temps du vol.
Du vol, Paris-Berlin.
Parce que c'est ça qui fait l'originalité de ce film par rapport à ceux dont on a pu parler dans les autres rubriques, c'est que autant les autres films sont dans la pyrotechnie, dans les cascades, dans l'outrance quelque part, autant celui-ci est ultra réaliste.
Ah, c'est le contre-pied total d'un, exemple, d'un Les Ailes de l'Enfer qu'on a chroniqué dans notre partie culte.
Et puis, le parti pris de la réalisation, parce que ça pourrait se passer dans l'intégralité de l'avion,
oui.
Mais ça ne se passe que dans le cockpit, depuis le point de vue du pilote, et la caméra ne sort pas du cockpit, si ce n'est mais alors 5 secondes à la fin du film.
Oui, c'est vrai.
Sinon, tout se passe dans le cockpit du début à la fin.
C'est vrai.
Et le film est d'entrée plongé dans le réalisme total, puisque les seules images qu'on voit en dehors du cockpit sont celles du générique de début. Oui. Ce sont juste les caméras de surveillance de l'aéroport. En fait.
C'est les caméras, ouais. Parce que c'est l'autre point de vue, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a soit une caméra qui est un peu braquée à l'intérieur du cockpit, soit des caméras, effectivement, extérieures. Et l'ouverture se fait sur une série de plans de caméras qui se rapprochent de plus en plus de l'avion. Et puis après, dans l'avion, on aura aussi une caméra qui permet de filmer ce qui se passe devant la porte du cockpit qui est fermée.
C'est la seule chose qu'on voit du reste de l'avion. C'est
exactement.
Ce qu'on voit lui, sur cette petite caméra en fait, qui filme juste l'entrée de la porte devant le cockpit. Hein.
Et alors, claustro s'abstenir parce que pour le coup, et on le disait dans la première partie de cet épisode 10, la plupart des avions qu'on a sont quand même des avions en carton pâte qui font 15 mètres de large, 20 mètres ou 30 mètres même de large, et dans lesquels on a tout l'espace du monde. Là, le réalisateur a opté pour une approche beaucoup plus réaliste et il a trouvé un vieil Airbus A320 hors d'usage et il a filmé en fait l'intégralité de son film dans un vrai cockpit d'avion, avec toute l'exiguïté que ça implique. Mais ça fait partie de la démarche de toute façon, hein, parce qu'il voulait quelque chose de très très réaliste sur une prise d'otage, des terroristes qui essaient de s'emparer de l'avion, et le pilote est tué,
le copilote qui finalement prend tout sur ses épaules.
Exactement, se retrouve à devoir gérer la situation et la volonté c'était de créer une espèce de huis clos un peu claustrophobe et angoissant.
Ouais.
Et il y arrive très bien franchement.
Oui,
ça marche vachement bien et c'est vrai que cette unité de lieu et de temps renforce encore le réalisme du truc.
On est avec lui, hein. On est vraiment avec lui, on tente de ressentir ce qu'il ressent et ça marche plutôt bien, parce qu'on se met vraiment dans la tête de ce copilote qui doit faire des choix cruciaux pendant tout le temps de ce vol. Et cette espèce de réalisme, il se joue dans le cockpit, il se joue dans le montage, dans les plans, dans cette immersion très forte dans le cockpit. Il n'y a pas de musique non plus. Il n'y a aucune musique dans
le
film. Il n'y a pas de fioritures. Et puis on est
les sons d'ambiance.
Voilà, les sons d'ambiance, ce qui se passe. On entend ou on devine, hein, ça a une bonne part au subjectif aussi, puisque même lorsque les terroristes doivent finalement vont mettre à exécution les menaces sur certains otages, la plupart du temps, la caméra qui donne sur le couloir se coupe. Lui-même, le copilote, coupe la caméra pour ne pas voir ce qui se passe et on ne le voit pas, mais on sait.
Oui.
On sait que les terroristes sont en train de tuer des otages dans des conditions ignobles. En
plus. Ouais.
Mais on ne le voit pas, mais on l'imagine et ça renforce encore le réalisme.
D'ailleurs, il y a une scène, je pense que c'est à peu près le seul élément un peu romancé où, sa femme est hôtesse de l'air sur le vol et évidemment se fait prendre en otage par les terroristes et il assiste quasiment à sa mort en direct devant les caméras, ce qui est quand même très traumatisant.
Ah oui, c'est une scène qui est très 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 dure à ce niveau-là. Mais le fait de rajouter cette relation entre eux, c'est vrai que ça rajoute encore une dose de drame, effectivement.
Mais je pense qu'il en avait besoin. Dureté. Ouais, ça rajoute de la dureté, mais je pense qu'il en avait besoin parce que quand on voit le film qu'il a fait, il est quand même extrêmement réaliste. Et je pense qu'il avait besoin de cette rajouter cet élément-là pour se dire, parce qu'après, en gros, pour vous raconter que vous compreniez, le leader des terroristes, un des jeunes terroristes, finalement hésite au moment de passer à l'acte final, se rebelle, le terroriste en chef est tué, le jeune terroriste est le copilote se retrouve enfermé dans le cockpit tous les deux, ouais. En sachant que lui a vu ces gens tuer sa femme, et donc on se dit est-ce qu'il va passer à l'acte et essayer de le tuer, est-ce qu'il va essayer de le raisonner, parce que il essaye de le raisonner, et d'ailleurs c'est assez drôle, enfin si on peut dire, mais à un moment ils discutent ensemble et s'aperçoivent qu'ils viennent du même quartier,
oui, que
Kreuzberg, ouais, ouais. Qui est le quartier turc à Berlin, et en gros ça dit cet autre qui a fait éruption dans ma vie de la manière la plus horrible, j'aurais pu le rencontrer au coin de ma rue,
Mon fils au parc.
Exactement. Et si ça se trouve, ils se sont déjà croisés. Et ça rajoute encore au côté émotionnel. Et le fait que y a cette tension de la mort de la femme qui en rajoute encore, on se dit, est-ce qu'il va passer à l'acte ou pas? Et la dernière partie, peut-être un petit peu longue.
Peut-être.
On reste quand même, on est quand même tenu en haleine.
Ah oui, c'est ça. C'est là que c'est extrêmement bien fait, c'est qu'on est vraiment tenu en haleine. On se met à la place de ce copilote et des questions qu'il doit se poser, parce que il y a deux questions quand même cruciales dans le film. C'est que il y a ce règlement qui lui interdit d'ouvrir la porte.
Oui.
Évidemment, ça c'est ce qu'il est censé faire en théorie, mais dans la pratique, il y a le fait qu'il y a des gens derrière la porte qui sont en train de se faire tuer ou qui vont se faire tuer s'ils n'ouvrent pas la porte. Et donc le premier point, c'est de se dire, va-t-il être jusque boutiste, va-t-être le pilote conforme au règlement et respecter le règlement. Donc ça déjà, c'est pas évident, je pense qu'on est dans la situation de se dire, bon, est-ce que je fais ce que je dis mon manuel, ou j'ai de l'humanité et puis j'ouvre la porte, mais avec le risque aussi derrière que tout le monde meure aussi.
Bah en fait le risque il est là, hein, et on le sait depuis les attentats de septembre 2001, c'est que tu peux buter tous les gens dans l'avion, mais tu peux aussi faire de l'avion une arme. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, quand les pilotes déclenchent ce fameux code 7500 qui dit à la tour de contrôle que l'avion est détourné, en général, ils doivent observer
le règlement.
Exactement.
Ils restent cloîtrés dans leur cockpit, les portes sont blindées, etc. C'est très très difficile d'y accéder. Donc c'est ce qu'il fait. Mais la deuxième question aussi qui survient au moment où, pour le coup, c'est sa femme, sans le savoir. Hein. C'est sans le savoir, les terroristes prennent l'hôtesse de l'air en otage, elle l'est déjà, mais la menace. Et lui disent que s'il n'ouvre pas la porte, ils vont tuer l'hôtesse de l'air. Et la deuxième question qui arrive à ce moment-là, c'est alors une question d'ailleurs, petite référence science-fiction, mais ça fait penser à un film majuscule, Star Trek 2.
Il vous ramène du Star Trek, quoi.
Tu t'y attendais pas.
Oh non, celle-là, elle est belle.
Il y a du Star Trek partout, on peut en sortir partout. Parce que dans Star Trek 2, quelle est la question qu'on se pose? C'est est-ce que le salut d'un seul doit-il prendre le pas sur le salut de tous? Et j'ai pensé à ça quand j'ai vu ce film, en me disant, voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que le salut de sa compagne doit prendre le pas sur le salut de tous les passagers? Il se pose cette question. Alors, on ne vous dit pas ce qui se passe, mais c'est terrible de vivre une scène comme ça. Et on le ressent très fortement pendant ce moment-là, le cas de conscience qui peut se poser à ce moment-là. Donc ça marche très très bien dans le film pour ces raisons-là.
Puis ça marche bien aussi parce que il a... C'est un numéro d'acteur, hein, vraiment. Il le disait d'ailleurs, notre ami Patrick Wolras, c'est que ce qu'il voulait, c'était des réactions très très réalistes, et donc il laissait en fait les acteurs composer, il laissait la caméra tourner, et plutôt que, comme ça se fait souvent dans le cinéma, on arrive, on a une idée de la scène très définie, on dit action, et puis 5 minutes ou 3 minutes ou 2 minutes après, on stoppe tout, on a le plan dans la boîte. Là, vous pouvez laisser la caméra tourner 10, 20, 30, 40 minutes, parce que ce qu'il voulait, c'était ressentir la bonne émotion, la voir arriver sur le visage des acteurs, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un jeu très en retenue, mais assez fin.
Gordon Levitt, il est Gordon très bon Levitt. Quand même dans le rôle, parce que tu peux lire dans son visage et dans ses réactions la tension extrême, mais pourtant, il garde la tête froide aussi, il essaie de rationaliser et réussit à surmonter cette situation qui est loin d'être facile. en regardant le film, je me suis dit, tiens, c'est un petit peu comme Vol 93. Tu parlais
des
attentats du 11 septembre, mais donc il y a eu un film qui a été fait sur ce vol dont les passagers se sont rebellés et qui s'est écrasé dans un champ, je crois, mais qui devait s'écraser sur le Pentagone. Donc il y a un côté très réaliste dans le film qui épouse quand même pas mal 7500, même si l'originalité aussi, c'est qu'on reste uniquement dans le cockpit dans ce film. Mais il y a ce côté très réaliste qui, pour faire un parallèle à ce qu'on s'était dit quand on a fait l'épisode sur les films de requins, il y avait un film qu'on a traité qui s'appelait The Reef, qui est une version hyper réaliste de ce que peut être une attaque de requins.
Ouais.
Bon, bah là, c'est vrai que c'est cette vision hyper réaliste de ce que peuvent vivre les pilotes dans un cockpit si ça se produit, et ça marche très 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 bien à ce niveau-là.
Ah, c'est très efficace, hein. Moi j'ai été, honnêtement, et on en discutait avant de lancer l'émission, mais c'est vrai que pour moi, les deux films qu'on chronique dans cette partie-là sont vraiment deux films qui sont conçus à amener quelque chose de nouveau dans ce genre, qui sortent un peu des sentiers battus. Celui-là est quand même assez glaçant, il y a une vraie intensité, il y a une vraie densité dans ce qu'on est en train de vivre. Il y a pas de voix off, il y a pas de musique, il y a pas d'habillage fait. On rentre directement. C'est un instant de vie entre guillemets assez intense. Mais ça se regarde très très bien.
Oui, ça se regarde très très bien. Il y a réaliste aussi d'ailleurs dans ce que pourrait être dans un cas pareil les réactions des passagers.
Tout à fait.
Parce que pour une fois, ce qui est assez rare dans ce genre de film, là on a des terroristes qui embarquent uniquement qui bricolent leurs armes.
Hein. Exactement.
En gros, c'est des caissons de bouteilles, etc.
Exactement.
Donc c'est des armes de fortune. Et ce qui est assez rare, c'est que effectivement les passagers vont quand même prendre conscience qu'ils peuvent prendre le dessus aussi sur les terroristes. Et on voit aussi comment des passagers pourraient réagir dans le bon sens, là où dans les autres films, la plupart du temps, bon, les passagers réagissent pas trop, et puis c'est les héros qui sont là pour sauver tout le monde. Donc là aussi, de ce point de vue-là, il y a une vision un peu plus réaliste de ce qui se pourrait se passer. Après, en bémol, enfin pour moi, dans le bémol que je verrai dans le film, c'est que j'ai trouvé quand même que le point de bascule au moment où le jeune terroriste finalement change un peu de camp,
il hésite.
Je trouve qu'il est il aurait pu être un peu mieux amené, parce que je me dis, ce gamin est dans cet avion, bon, je pense qu'il a compris pourquoi il était là, mais que il a une prise de conscience qui me paraît un peu rapide, en fait. Et c'est parce qu'il prend conscience que la situation bascule quand même en faveur des passagers, en faveur du pilote. Mais je me dis, ça, en revanche, est-ce que c'est très réaliste? Est-ce que c'est juste le fait d'avoir vu des gens mourir, vraiment, de comprendre qu'on veut jeter l'avion sur des immeubles, qui est un choc pour lui, qui lui font vraiment prendre conscience de ce qu'il fait? Ou est-ce que c'est quand même une petite facilité scénaristique à ce moment-là? Qui m'a un peu plus gêné.
Je pense que c'est... Oui, t'as raison. Je pense que c'est une facilité scénaristique qu'il a pris de toute façon pour pouvoir boucler son film sans le faire s'étirer. Après, je pense que c'est... Il y a un vrai endoctrinement de gens qui sont parfois très très jeunes et qui, effectivement, à un moment, quand ils se retrouvent confrontés à la réalité, il y a une espèce de sidération, même du côté de ces gens-là. Donc peut-être que il a un peu accéléré le truc pour que ça serve ses intentions réelles, mais
oui d'un autre côté on n'aurait pas compris non plus si tout à coup le personnage de Gordon Levitt devenait un action hero et prenait les choses en main.
Ça n'avait pas
forcément de sens non plus, ou alors il aurait fallu une intervention extérieure, mais ils sont en plein vol, ils n'allaient pas faire monter Steven Seagal dans l'avion, donc bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas pour sortir de ce scénario là il n'y avait pas 36 solutions.
Ouais.
Je me dis peut-être qu'il serait... ça aurait pu être peut-être amené d'un peu plus subtilement cette histoire-là. Bon, c'est peut-être le seul bémol que j'y mettrais, même si regardez-le ce film puisqu'il est disponible sur Amazon si vous êtes abonné à Amazon, et que vraiment ça vaut non pas le détour devant, mais ça vaut le détour
tout à fait
de le regarder. Et nous allons maintenant
enchaîner
un second film, toujours sur ce thème des méchants dans l'avion, mais lui qui prend un axe rigoureusement différent
du
réalisme de celui dont on vient de parler.
Alors là, on est, c'est pas tout à fait la même chose.
Et qui pourtant apporte aussi pas mal de choses au genre.
Exactement.
Nous allons vous parler de Blood Red Sky.
Ouais.
Un film de 2021 qu'on peut trouver sur Netflix cette fois-ci. Titre québécois, ils se sont pas foulés puisque c'est Ciel Rouge Sang, pour le coup.
D'accord.
C'est littéral, quoi.
C'est ça.
Ils sont pas compliqués. Et c'est un film de Peter Sonworth, qui réalise et qui co-scénarise le film, il avait scénarisé un film qui s'appelle La Vague, qui était sur le fonctionnement d'un régime totalitaire, qui avait pas mal fait parler de lui à l'époque. Donc voilà, c'est un film produit en allemand, c'est un film allemand. Donc,
ouais.
On retrouve au casting pas mal d'acteurs allemands, mais pas que. Un budget de 17,7 millions de dollars, c'est quand même pas mal.
Ouais, et qui ont été... plutôt pas trop mal utilisé.
Oui, je suis d'accord. Plutôt bien utilisé. Et, alors, bien sûr, là, on peut pas vous dire combien ça a rapporté, mais en tous les cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que ça a été un très gros succès sur Netflix, puisqu'il a eu 50 millions de vues en 28 jours.
Ouais.
Et Netflix rapportait que 90% de l'audience était restée jusqu'au bout du film. Donc c'est quand même assez, assez remarquable. Et c'est le film allemand le plus populaire jusqu'à présent de la plateforme.
Ouais. Voilà. Écoute, c'est quand même plutôt assez mérité, moi, je trouve. Parce que c'est un mash-up de genres un peu différents, et c'est toujours un exercice un peu casse-gueule, et là, c'est plutôt assez bien maîtrisé.
Exactement. Alors, qui on retrouve au casting ? On retrouve dans le rôle principal donc Perry Baumeister, qui est une comédienne allemande, mais voilà, surtout tournée en Allemagne.
Oui.
Alexander Scheer, qui lui aussi est un comédien allemand, mais qui a quand même été vu dans le Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar.
Ah, et pas oui, moi.
Le savoir. On retrouve aussi, alors c'est lui qui reste au sol, Graham McTavish. Alors lui, il est un peu plus connu, il est britannique, mais on le voit dans Le Hobbit, dans Creed, dans Outlander, en fait, la série Outlander, il a un rôle assez important.
Il a joué dans John Rambo aussi, je crois.
Exactement.
Et
exactement.
Dans Pandemic, virus fatal.
Exactement. Donc, il fait une sorte de série de... pas de télé-réalité, mais une sorte de série documentaire je crois que c'est sur Netflix, avec le comédien principal de Outlander, en fait, ça s'appelle Men in Kilts.
Ok.
Men in Kilts, c'est assez populaire. Lui, il joue le rôle du type un peu terrien, qui parcourt le monde, et surtout l'Écosse, je crois, avec le co-acteur d'Outlander, qui lui est le gars un petit peu plus extraverti, et il joue des trucs ensemble. Ça marche pas mal. Donc Graham McTavish, et on retrouve enfin, quand même, le plus connu de tout le casting.
Dominique.
Prison Break Purcell. Voilà, donc comédien britannique et australien, on parle de Prison Break puisqu'il incarnait Lincoln Burrows dans Prison Break, c'est-à-dire le frère du héros qui lui est incarcéré. Et il avait joué aussi dans une série qui n'a connu qu'une saison mais que j'aimais beaucoup, moi, qui s'appelait John Doe.
J'aime bien les John Doe.
J'aime bien les John Doe, c'est vrai. Et ce film, cette série John Doe, il incarne un type qui se réveille, je crois. Il se réveille, il sait pas trop qui il est, mais il connaît tout, surtout. Et il aide la police. Et puis, on l'a vu au cinéma dans pas mal de films. Impossible 2, Equilibrium. Et pour en revenir à Wesley Snipes, dont on parlait dans la première partie de ce podcast, il a joué dans Blade Trinity, puisqu'il joue Vlad Tepes, le méchant. Voilà, il a joué aussi dans Legion of Tomorrow, qui est une série de super-héros d'essai, et où il retrouve d'ailleurs Wentworth Miller, qui jouait dans Prison Break avec lui. Voilà pour le casting. Alors, ouais. Carlito,
tout à fait.
Peux-tu nous faire, comme à ton habitude, le pitch ?
Bien sûr. Une femme voyage seule avec son fils. Elle est un peu étrange, mais ne paye pas de mine. Toutefois, quand l'avion va se retrouver détourné par des méchants garçons avides de pognon, elle va se montrer bien plus inquiète et nerveuse que les autres passagers. Normal, elle souffre d'un mal pas commun, et elle a besoin de s'injecter son médicament à heure régulière, et aussi de rester le plus loin possible de la lumière du soleil. Pas besoin de vous faire un dessin, mes poditeurs, vous avez bien compris de qui il s'agit. Et les terroristes qui ont choisi de détourner le mauvais vol ne vont pas tarder à s'en apercevoir non plus.
Absolument, bravo pour ce pitch qui nous remet bien dans le contexte. Alors oui, c'est un film de prise d'otage en avion, mais là où c'est original, c'est que...
La personne sur laquelle il ne fallait pas tomber, c'est pas du tout un héros, c'est pas du tout un John McClane, c'est...
un vampire.
Tout à fait.
Et donc ça retourne la situation, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait ce sont finalement les terroristes et les preneurs d'otages qui se retrouvent eux-mêmes confrontés...
Sacrément
dans la mouise, et pris en otage finalement par cette espèce de créature. Donc on est un petit peu dans le mélange du... pour le film de vampire, du huis clos qui pourrait se passer dans le Déméter, c'est le bateau qui ramène Dracula à Londres. Et dans le bateau ils sont
tous bouffés.
D'ailleurs il y a un film, je crois qu'il y a un film très récent qui est sorti sur cette histoire-là cette année. Donc il y a le côté huis clos vampire, puis il y a le côté prise d'otage en avion et qui nous ramène à notre thème. Et donc c'est la mère est un vampire.
Mais c'est d'ailleurs, c'est en fait En vrai, la trame, elle est relativement classique, hein, c'est-à-dire effectivement des méchants qui montent dans l'avion, qui veulent s'en emparer. Bon, là, pour le coup, c'est vraiment pour récupérer du pognon,
Oui.
et ils tombent sur un os, quoi. Et là, le hic, c'est pas un Cameron Poe comme dans Les Ailes de l'Enfer, voilà, un super-héros, ou un héros super, mais en tout cas quelqu'un de très très fort, etc. Mais c'est quelqu'un qui va leur donner du fil à retordre. Le côté inattendu, c'est que d'abord, bah, ça vient d'une jeune femme qui, voilà, qui semble pas vraiment inquiétante et qui va se révéler redoutable. Et c'est l'ajout de cet élément fantastique qui fait tout l'intérêt du film et qui renouvelle le genre, en fait, hein.
Oui, c'est ça qui crée la différence, effectivement. Alors, même si je trouve que là où Netflix n'a pas forcément été très habile sur ce coup-là, je trouve, c'est que ce qui fait l'intérêt du film, c'est de découvrir que effectivement elle n'est pas juste malade. Parce qu'au début du film, on nous la présente comme elle est malade, on comprend qu'elle est malade, on comprend pas
Ouais,
trop ce qu'elle a.
on la voit un peu craintive, un peu
Voilà.
chétive. C'est son fils qui va faire les démarches à l'aéroport pour elle. Elle reste dans la chambre d'hôtel, donc on se dit, oh là là, ça n'a pas l'air d'aller très très
Voilà,
fort.
on ne sait pas de quoi elle est atteinte, on pense qu'elle est malade, et puis progressivement, on découvre qu'en fait, elle est un vampire. Et
Et
je trouve
d'ailleurs,
que...
t'as quand même juste, je te coupe, mais je sais plus si au début tu vois qu'elle porte une perruque ou pas, mais
Non, je
quand
crois
t'as
pas, tu ne
c'est
vois pas au début, à un
Tu
moment donné,
devines un
d'une
peu
côte,
à un
devine
moment,
qu'elle n'a pas de cheveux,
et
comme
du
ça.
coup, tu penses quand même à quelqu'un, parce qu'elle prend l'avion pour aller faire un traitement qui doit l'aider, mais qui est assez peu répandu, machin. On la voit s'injecter des choses avec une seringue. Elle a plus de cheveux, donc tu dis, waouh, elle est en train de se taper un
Oui,
cancer
voilà, c'est ça,
monumental,
c'est ça.
et elle est seule avec son fils, et voilà. Et donc du coup, tu la prends plutôt en pitié. Et tu te dis, cette pauvre femme, elle va se retrouver en plus dans un merdier sans nom.
Oui, voilà, et c'est ça qui surprend.
Oui.
Et c'est là où je disais Netflix, là où c'est un peu dommage, c'est que pour attirer le chaland, finalement, bah,
Ouais, bah
ils ont
oui.
tout joué sur le
Ils ont
vampire.
cassé le twist.
Donc ils ont cassé le twist complètement, ne serait-ce que sur les visuels du film.
Bah
On
oui.
comprend tout de suite que c'est vampire. Ils l'ont classé dans la catégorie film d'horreur, machin,
Bah
etc. Donc
oui.
il y a plus, à cause de ça, il y a plus de surprise. Tu sais ce qui va se passer.
Ouais.
C'est un peu dommage parce que si tu ne sais pas ça, quand tu découvres le film un peu
Tu le prends en pleine figure.
à la manière d'une nuit en enfer, par
Ouais.
exemple, quand tu sais pas exactement où veut te mener le film, tu peux avoir une vraie surprise. Mais donc, bon, tu ne l'as pas forcément, puisque tu sais déjà que
Ouais,
c'est un vampire.
exactement.
Et ça, c'est plutôt original. Je trouve aussi que le traitement du vampire est intéressant,
Ouais.
parce que pour une fois, on nous sert pas le côté, c'est tellement romantique d'être un vampire, c'est tellement bien d'être un vampire.
Ah non, 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 non.
Elle le vit comme une
C'est une...
maladie
Ouais.
qui l'a fait retourner à l'état de bête sauvage,
Ouais,
hein,
c'est
on peut le
ça.
dire. Et puis il faut voir on comprend dans des flashbacks comment elle a été
Ouais.
contaminée, si je puis dire, et ça fait pas rêver, hein, pour le coup.
Ouais, non, je suis d'accord. Effectivement, le traitement du vampire, il est assez hard. Tu comprends que c'est une malédiction, voilà. Comme c'était exprimé d'ailleurs dans les premiers films de vampires, hein, c'était la malédiction, etc. Sauf que elle se transforme, mais elle se transforme à quelque chose de pas franchement joli joli.
Non, c'est...
Tu sens que elle lutte et elle s'injecte des médicaments pour ne pas se transformer parce que elle perd tout contrôle quand elle a basculé en fait.
Enfin, c'est une
Et
bête sauvage, voilà. C'est un
voilà.
vampire sauvage. Elle a
Et
peur de ce qu'elle peut devenir.
plus elle reste dans cet état, plus c'est difficile pour elle de
De se
revenir.
contrôler, quoi.
Ouais,
Et
ouais.
d'ailleurs, c'est intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que le petit qu'elle protège au
Oui.
début du film, progressivement, bah, c'est lui qui devient presque responsable de sa mère, parce que quand elle
Exactement.
est vampire et elle se contrôle plus, il n'y a que lui qui réussit quand même un petit peu à la remettre sur
Exactement.
les rails,
Il y a
quoi.
lui, et puis il y a Farid,
Oui, c'est
le
vrai.
fameux, le copain, le passager qui devient l'ami du petit garçon, et qui est à peu près le seul, en fait, dans ce vol qui a un soupçon d'humanité. C'est le seul qui est vraiment humain, c'est le seul qui voit aussi que les choses vont très mal tourner, qui essaye de protéger le petit, parce que, évidemment, vous vous en doutez, ça dégénère, puisqu'elle s'attaque à un moment, les terroristes s'attaquent à elle, ils la blessent d'ailleurs, ils la laissent pour morte, et évidemment elle se relève, ce qui ne manque pas de les étonner, et ça part en mêlée générale, et tout le monde se tire dessus, et évidemment il y a des gens qui sont contaminés, etc. On a évidemment un psychopathe
Voilà.
parmi les pirates de l'air qui est un grand malade et qui, à un moment, parce que Elle a une force surhumaine externe, mais elle n'est pas non plus imbattable.
Non, elle n'est pas invulnérable.
Et voilà, et il arrive à lui soutirer un peu de sang. Ouais. Et évidemment, son kiff, c'est de devenir un vampire.
Oui.
Et donc là, vous vous doutez bien qu'entre la confrontation entre la maman vampire qui protège son enfant et le pirate de l'air complètement psychotique, ça vire au carnage dans la soute.
Ouais, c'est clair. Mais bon, là aussi, à la limite, c'est un peu le bémol, moi, que je vois sur ce film-là. En revanche, c'est que autant je trouve que c'est intéressant, que le personnage de Dominique Purcell est intéressant parce que t'es surpris par ce qu'il devient,
t'es surpris
à ce niveau-là, autant avoir rajouté dans la bande de terroristes cette espèce de psychopathe hyper caricatural qui lui finalement en quelques minutes n'a qu'une envie, de s'injecter le sang du vampire,
c'est
si
ça.
Je puis dire, c'est un peu mal amené, c'est assez maladroit, parce qu'en plus, autant elle semble ne pas devenir vampire facilement, parce qu'en plus elle prend un traitement, mais alors autant lui, il s'injecte le sang, et puis plus tard, il est devenu le Dracula des airs. Ouais. Donc ça, c'est un peu mal scénarisé.
Non mais, évidemment, le film, honnêtement, c'est pas un chef-d'œuvre, le film, il est pas exempt de maladresse ou de lacunes. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'aller-retour, de flashback, de machin,
ouais.
Et tu dis, est-ce que c'est fondamentalement utile? Ça coupe l'action. Au fond, tu sais pas trop en quoi c'est utile d'aller avoir toute l'histoire de sa contamination. Tu sais pas trop si c'est important que ça, mais en tout cas, ça casse le rythme.
Ouais.
Mais il n'empêche que je trouve pour le coup que les scènes d'action sont quand même plutôt pas mal réussies pour un film
à
17 millions de dollars.
Les effets spéciaux tiennent vraiment la route.
Ouais.
Hein, pour le coup,
c'est sobre.
C'est bien exécuté.
Hein,
ouais.
C'est allemand, c'est sobre.
Tout à fait.
Mais c'est plutôt bien foutu, effectivement. Et les effets spéciaux et les scènes d'action. Et tu t'inquiètes pas mal pour ce petit enfant et son camarade Farid, parce que tu te dis, ça va quand même. Ça tourne au pugilat général à un moment et tu te dis, ils ont quand même peu de chances d'en échapper.
Oui, c'est sûr. Alors après, on n'échappe pas aussi à quelques clichés, hein, parce que je notais, il y a quand même des personnages dans l'avion, alors au-delà des terroristes, qui sont quand même bien caricaturaux.
Ah oui, bah tous.
T'as celui de première classe, là, qui est a priori un trader, infréquentable, qui lui aimerait bien devenir, à la limite, devenir un vampire, ça le dérangerait pas, un salopard de capitaliste,
voilà.
Pour te dire. Voilà. Et puis, si, quand même, alors un truc récurrent, on vous en a parlé dans d'autres parties, mais bien souvent dans ces films de détournement d'avion, eh ben on va dire que les Arabes ont pas le bon rôle, puisque
c'est
eux qui détournent. Hein. En gros,
ça c'est clair.
Ils ont un bouc émissaire. Et dans ce film-là, qui pourtant est super récent, alors là ils ont quand même la prouesse de faire croire, ce sont des terroristes allemands, donc voilà. Mais ils veulent faire croire que l'avion est détourné par des terroristes arabes.
C'est ce qu'ils
essaient de montrer.
Bah parce qu'en fait, ils veulent eux, c'est pour le coup, c'est des pirates de l'air. Quoi.
Oui.
Ils veulent récupérer du pognon,
voilà.
Et ils s'en foutent. Et donc ils se disent, c'est bien si on peut croire que c'est une attaque terroriste parce que ça va être pris plus au sérieux, et alors donc
exactement.
Si on pouvait faire une revendication en arabe, ce
et
serait
puis,
mieux.
Comme il y a un passager arabe en plus,
voilà.
Qui s'avère en plus être un mec très bien, mais on le fait passer pour le terroriste.
Voilà.
Donc, on peut laisser entendre que c'est lui le terroriste alors que pas du tout. Bon, ça c'est un peu facile, on va dire.
Ouais,
c'est pas hyper bien senti, on va dire.
Oui, oui, mais malheureusement, c'est vrai que, et c'est le cas, hein, dans la plupart des films qu'on chronique dans cet épisode, quand il s'agit d'un détournement d'avion, forcément, le terroriste est arabe.
Oui.
C'est toujours comme ça.
Si
c'est une espèce de stéréotype total, quoi.
Exactement.
Alors qu'il y a quand même un certain nombre de groupes terroristes qui n'ont rien à voir avec ça, avec la mouvance islamiste, et qui sont tout à fait capables de faire aussi des détournements, mais... Voilà, c'est comme souvent dans ce type de film, on prend le raccourci le plus raide pour éviter qu'on y réfléchisse trop.
Après, philosophiquement parlant, j'ai envie de te dire, on peut peut-être...
Ouais, vous devriez voir ma tête, c'est pour ça.
Je vois le regard de Calito, dont les yeux s'éloignent de questions. Non, je dis philosophiquement parlant, on peut se dire quand même que ce qui est intéressant aussi, c'est que pour faire le bien...
Ouais.
Elle est obligée d'embrasser le mal. Tu vois ce que je veux
dire? Ça, c'est clair.
C'est qu'elle est obligée de faire, d'accepter cette part de mauvais en elle, le vampire,
et de
la maîtriser pour réussir à maîtriser, à faire le bien pour son fils.
La maîtriser, oui et non. La maîtriser, oui et non. Parce qu'en fait, et on le voit bien, et elle le sait, elle est obligée de basculer et elle ne reviendra pas, en fait. Elle ne reprendra pas le contrôle parce qu'ils sont trop nombreux, elle doit les éliminer. Et justement, elle se sacrifie, entre guillemets, en devenant ce qu'elle a toujours refusé d'être. En fait.
Mais elle aura tenter de dompter cette nature profondément mauvaise et d'en faire quelque chose. Et là, je vois un petit message d'espoir.
Tout à fait.
On a tous cette part d'ombre, cette part de mal, mais qu'il faut savoir maîtriser pour en faire quelque chose de bien aussi, tu vois. Et je vois un peu cette espèce de message entre les lignes dans ce film. Une raison de plus, j'ai envie de te dire, pour le regarder.
Non, honnêtement, c'est pas mal. Hein. C'est une approche intéressante, un peu originale du film avec des méchants dans l'avion. Et ça se laisse quand même bien regardé, moi, je trouve.
Ouais, tout à fait.
Voilà, juste quelques longueurs, quelques lenteurs, parfois, mais honnêtement, pour une prod Netflix, c'est propre, hein, ça tient bien la route.
Ouais, absolument. Et puis, j'ai envie de dire, pour conclure là-dessus, il y a un autre film d'Amazon qui est sorti à peu près au même moment, qui s'appelle Shadow in the Cloud.
Ah oui!
Avec Chloé Grace Moretz. Et alors, pour le coup, celui-ci, c'est une grosse daube.
Oui, je sais.
C'est une grosse daube.
Je m'étais demandé s'il fallait le mettre dans Ridiculte. Et puis finalement, comme on avait déjà quelques clients.
Oui! Je sais pas trop, une prise d'otage, un c'est que ça se passe dans un avion.
Oui.
Et alors, pour le coup, Shadow in the Cloud, c'est vraiment une bouse. Regardez-le si vous voulez voir un film dans un avion. Mais c'est un ratage total à tous les niveaux. Et donc, il vaut mieux, quitte à regarder un bon film dans un avion, regarder Blood Red Sky.
Nous, on va se quitter là-dessus et puis on va bien évidemment vous retrouver dans la partie suivante de cet épisode 10 des Méchants dans l'avion qui porte le nom de Ça se discute.
Ça se discute. Et nous allons aborder plusieurs films.
Tout à fait.
Vous pourrez voir quels films en regardant sur les plateformes. Mais on vous rappelle que nous avons donc 4 parties qui constituent cet épisode des Méchants dans l'avion. La première autour du culte, on traite Passager 57 et les ailes de l'enfer. La deuxième, Copiculte, dont on vient de parler. La troisième, Ça se discute. Et puis la quatrième, Ridiculte, où on traite quelques bons nanars du genre. Voilà, à très vite. Merci à toutes et à tous. Et merci encore de nous suivre aussi nombreux sur nos plateformes sociales, sur Instagram, et puis d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup.
Salut.
Au revoir.